j'ai l'honneur et l'avantage de présenter Lucie Mottier-Lopez, donc beaucoup d'entre vous connaissent et que j'ai déjà présenté succinctement hier. Alors Lucie est professeure ordinaire à l'Université de Genève et prochainement, dès ce mois de juillet, c'est un scoop, elle sera doyenne de la faculté de psychologie et de sciences de l'éducation à l'Université de Genève. Bon, elle est bien jeune pour être doyenne, mais... Alors, créatrice...
Ça fait plaisir. Ça veut dire que je fais pas mon âge.
Voilà. Créatrice du réseau RCPE, Recherche collaborative sur les pratiques d'évaluation de l'ADME Europe. Donc, vous voyez, on est vraiment dans nos thématiques, hein, évaluation, recherche collaborative. Elle dirige le groupe de recherche, évaluation, régulation et différenciation des apprentissages dans les systèmes d'enseignement, RED, donc. Elle est également directrice et co-éditrice de la revue en ligne LI, qui traite des problématiques évaluatives dans le champ de l'éducation et la formation. On a vraiment ici quelqu'un qui connaît bien le sujet qui nous préoccupe pendant cette rencontre internationale. Alors, les travaux de Lucie articulent de différentes manières les problématiques d'évaluation et de recherche collaborative. Je ne vais pas les passer en revue parce qu'elle le fait vraiment de différentes façons et c'est toujours très, très intéressant. Autour d'Eléa, Lucie Mottier-Lopez a rédigé la conclusion scientifique de l'ouvrage « Le réseau des lieux d'éducation associés à l'Institut français de l'éducation, un instrument pour la recherche » qui va paraître en novembre 2022. Croisons les doigts, aux presses universitaires de Rennes, pour un ouvrage qui traite, qui présente les 10 ans d'existence du réseau d'Eléa. Alors, c'est pour vous dire que l'équipe d'Eléa est ravie de l'intérêt que Lucie porte au Léa, en acceptant, après l'atelier qu'elle a copiloté hier et qui était vraiment très très intéressant, de donner aujourd'hui sa conférence.
Merci à toi, merci à vous toutes, tous. Merci de me réécouter pour certains. Donc là, vous aurez droit à la version complète ce matin. Merci aussi à toute l'équipe, hein, des organisatrices, des organisateurs, directeurs. On a fait des échanges absolument passionnants pour préparer ces deux jours. Et donc, nous avons retenu, pour poser la question de l'évaluation, les termes clés hein, que vous retrouvez ici et qui ont déjà été énoncés dans l'introduction de cette journée. Bon, écoutez, soyons clairs. Hein. Parler de la question de l'évaluation quand on a la chance, comme vous, d'être dans un Léa, d'être dans un réseau de Léa, que vous êtes dans de la collaboration, que vous visez de l'émancipation, de la démocratisation, de la co-construction d'expertise. Et poch, l'évaluation, est-ce que vraiment c'est la question la plus sexy et la plus attrayante à porter un jour, en plus il va faire 32 degrés? Et on a bien déjà mis le mot en disant un peu, le techno-langage de l'évaluation. Vais-je arriver à sortir de ça? Non, certainement pas. Donc, je vous prie déjà de m'excuser pour la dimension un peu technique, inévitablement, qui va vite arriver dès qu'on est sur la question évaluative. Et puis, en même temps, je vais essayer... de poser avec d'autres un regard un peu différent sur notre rapport à l'évaluation. Donc, une question peut-être initialement qui est peu attrayante, pourtant ô combien cruciale, et c'est pas du tout anodin qu'effectivement cette question se pose, dès lors qu'on commence à avoir comme vous une grande expérience des Léa, et qu'il s'agit de faire reconnaître la valeur de ce que vous faites ensemble dans le contexte de ces réseaux. Alors, peut-être dire que j'ai bien conscience qu'il y a des experts et des expertes, tant de la pratique, du terrain, que des collègues chercheurs, chercheuses que j'ai pu voir dans la salle. Je n'ai absolument aucune prétention d'en savoir plus. Je vais simplement vous énoncer les préoccupations que j'ai moi-même en tant que chercheuse dans le domaine de l'évaluation qui mène des recherches collaboratives. Avec beaucoup d'interrogations, on a eu l'occasion de rédiger une réflexion avec Lucie Haussel qui pose ses questions également, faisant le constat en 2018 que finalement souvent la question de l'évaluation des recherches participatives, recherches interventions, recherches... Écoutez, comme vous souhaitez les appeler, dès lors qu'il y a collaboration entre les chercheurs et les praticiens au sens pluriel du terme, eh bien, ça restait un impensé. il y avait vraiment quelque chose, une sorte de question vive qui se pose dès lors qu'on est sur ces questions d'évaluation. Alors pour les traiter, eh bien on va revenir déjà sur évidemment de quoi parle-t-on quand on parle d'évaluation. Et puis très vite, et c'est peut-être l'élément que je n'ai pas développé hier, mais je vais faire en sorte que ceux qui n'étaient pas hier puissent aussi pas avoir l'impression d'avoir manqué quelques pièces à l'édifice. Et donc, la question de la pluralité, et je tiens absolument à dire que même si, pour ma part, j'ai une sorte de... Évidemment, j'incarne certains choix épistémologiques, théoriques. Je suis une femme engagée. Donc, du coup, en matière d'évaluation, je suis aussi engagée. Je ne peux pas faire de la recherche collaborative en imaginant qu'après, en tant qu'évaluatrice, je vais une sorte d'évaluatrice au cœur froid, vous voyez, hein, qu'on va se mettre à distance hors des situations. Ce n'est pas possible, puisque toutes mes épistémologies de recherche ne sont pas dans ces approches. Mais je tiens absolument à dire qu'ici, je vais être tentée de garder la pluralité des points de vue. Parce que je pense que tout l'enjeu aussi, pour nous faire reconnaître dans la valeur de ce que l'on produit, c'est d'être en mesure aussi d'englober cette pluralité des regards évaluatifs. Donc ça, je vais un petit peu plus développer aujourd'hui. Et puis, si j'ai le temps, et autrement, je m'arrêterai là, eh bien, je reviendrai sur un outil qu'on essaye de développer, et grâce à vous, qui m'a déjà mis en question hier avec les échanges qu'on a pu avoir dans les ateliers. Donc, enjeu de l'évaluation. Alors, quelques prolégomènes. Je choisis ici, ça c'était les diapositives de hier soir, je me suis dit, bref, on s'était dit avec nos organisatrices qu'on n'allait pas entrer directement par l'évaluation. Puis, au regard de tous les échanges que nous avons eus hier, je me suis dit, mais l'évaluation est constamment présente. Pourquoi est-ce qu'on a une sorte d'élégance intellectuelle, relationnelle, de ne pas dire le monde dans lequel on est ? C'est-à-dire que nous ne cessons pas d'être évalués. Tout, constamment. Donc, quantophrénie des évaluations. Alors, pour la recherche, puisqu'on est ici sur la question de l'évaluation des recherches et dans la recherche collaborative, en amont, pour obtenir des fonds, en cours, à la fin, on produit des rapports constamment, il faut bien justifier tous les fonds, les ressources, le temps, enfin, ça, voilà. On a, ça c'est chouette, des communications orales, il va y en avoir tout à l'heure, des communications écrites, j'ai fait très attention de dire communication, vous avez vu, hein, c'est un échange de hier, mais encore faut-il qu'elles soient acceptées, leur évaluation par les pairs, pour pouvoir avoir le bonheur, l'honneur quand on est chercheur et chercheuse de communiquer dans un congrès prestigieux. On sait que selon où on écrit, eh bien, il va y avoir encore la question de la notoriété des supports de publication. Donc finalement, là où on écrit est tout aussi important que ce qu'on écrit. Ah bon ? Oui. Donc on nous évalue. On va nous évaluer en tant que chercheuse. Tout à l'heure, on a dit, on va devoir développer des compétences et montrer notre capacité hein, à développer des compétences dans la recherche collaborative. Alors, on va devoir aussi le faire valoir dans nos dossiers de chercheurs, chercheuses, parce qu'on va être nommé, renouvellement, mandat, etc. Évidemment, on évalue les groupes, les laboratoires de recherche, on évalue les universités, les recherches, les institutions. Je ne sais pas comment on survit à tout ça, finalement. Est-ce que vous avez envie de survivre à ça ? Est-ce que les Léa, je m'excuse, il manque un A majuscule, est-ce qu'elles doivent être aussi soumises à ce cadre normatif ? Est-ce que les Léa, si on ne le fait pas, si on s'y soustrait, on va dire des Gaulois, des résistants, est-ce que si on ne le fait pas, est-ce qu'on va nous reconnaître au même titre que la recherche plus traditionnelle ? Moi, je ne sais plus ce que ça veut dire, hein. Je n'ose même plus dire recherche fondamentale, recherche... Non, je ne sais plus, on est qu'à... Une autre façon de faire de la recherche qui est culturellement admise, valorisée. Si on ne fait pas, est-ce qu'on existe ? Si on admet qu'on a une certaine spécificité, hein, vous les connaissez, hein, c'est aussi une limite. Est-ce qu'on peut vraiment atteindre tous les buts visés ? C'est une des critiques qu'on faisait déjà aux recherches évaluatives. Et voilà que maintenant on dit recherche collaborative. Et voilà qu'on commence à parler d'évaluation, bien sûr, il le faut peut-être. Mais voilà qu'on se dit, mais on peut vraiment atteindre tous les buts qu'on veut atteindre avec ce qu'on fait dans les Léa. Visée heuristique, construire de la du savoir scientifique, de la connaissance scientifique. Déjà là, on est un peu mal pris hein, de certaines revues pour prétendre qu'on produit du savoir scientifique à travers des recherches collaboratives. Donc ça veut dire que même si nous, on peut le valoriser, encore faut-il que les normes culturelles scientifiques reconnaissent la valeur de ce que l'on fait. Mais c'est pas tout. C'est surtout pas tout. On a des enjeux de développement professionnel, de développement de ressources, donc des enjeux praxéologiques. Quand nos acteurs, nos partenaires de terrain viennent nous chercher pour nous soumettre un problème, un dilemme du métier, ils ne viennent pas pour qu'on produise des articles scientifiques. Non. Ils viennent parce que ils ont la conviction, en tout cas on construit avec eux la conviction que grâce à la recherche collaborative, on pourra peut-être ensemble mener un petit bout de chemin par rapport aux problèmes qui les préoccupent. Avec ce que Madame Brigitte Darqui, mais elle m'a autorisé à dire Brigitte, vous permettez ? Alors, Brigitte disait tout à l'heure, on est face à la complexité du réel et c'est un monde qui se dérobe constamment. Et donc, une solution ne va pas être la solution de demain. Ce qui fonctionne dans un Léa ne va pas forcément fonctionner dans un autre Léa. Puis voilà qu'on est un ensemble de chercheurs, chercheuses. On dit oui, mais il va falloir également rajouter une troisième visée. Comme si deux ne suffisaient pas, on va en rajouter une troisième. C'est la visée critique. La visée critique, c'est de se dire, on va se mettre en méta sur la recherche en train de se faire, hein, une sorte de méta-enquête, pour se dire, regardons-nous faire, explicitons la façon dont nous faisons, et est-ce qu'on s'émancipe ? Parce qu'il y a la visée d'émancipation hein, derrière les recherches collaboratives et les Léa. Est-ce qu'on est véritablement dans une approche démocratique ? Et c'est pas la science qui impose, et c'est pas le terrain. Est-ce qu'on arrive à trouver cette troisième voie, cet espace de médiation ? Est-ce qu'on s'autorise finalement à s'évaluer ? Et certains, grâce à l'initiative de collègues français d'ailleurs, hein, que je remercie, donc là en l'occurrence je pense à Jean-François Marcel, Jean-Luc Rinaudot et d'autres, on en a eu l'occasion de réfléchir dans un précédent AREF à ces questions, c'était de se dire, et si on mettait aussi la fonction critique ? Et c'est de cette manière-là qu'on a un peu commencé à poser ces questions. Bref, tout cela c'est très joli, mais comment argumenter, nous faire reconnaître nos spécificités, légitimité, validité scientifique et sociale, et ça c'est la question qui nous préoccupe, et on va pas la répondre, enfin moi j'ai pas les possibilités d'y répondre, évidemment, c'est tellement complexe, mais vous faites partie d'un collectif qui, je l'espère, nous aidera à répondre à ces questions complexes. Allez, faut me critiquer là. Je suis entrée par les enjeux de recherche, donc en fait c'est des préoccupations de chercheurs-chercheuses que je vous ai dit. Articles, recherche, dossier, université, etc. Enfin, j'avais dit que je ne faisais pas ça, je m'excuse. Hein. Ben, je le fais quand même, hein, c'est mieux. Hein. Puis c'est là où je me dis, ben non, je ne pense pas en fait. Certes, je suis chercheur, chercheuse. Bon, j'ai été aussi enseignante une dizaine d'années. Mais ça ne veut pas dire que ça... Ça ne veut pas dire que c'est des préoccupations qui ne concernent que les académiques. Quand on est partenaire de terrain... Dans quelle mesure ma participation, mon temps, mon engagement, mes émotions, parce que c'est rarement neutre, hein, on y met ses émotions, vous en parliez dans l'atelier hier, de notre collectif professionnel, est-ce que ma participation est reconnue par ma hiérarchie, par mes collègues, par moi-même, par les autres Léa, grâce à ces lieux ? Est-ce qu'elle est valorisée ? Est-ce que je parais suspecte de participer à telle Léa ? Ne dis pas trop, hein. Quand on développe des ressources, il y en a, hein, vous avez développé des plateformes, des ressources, des moyens, mais c'est fabuleux. Je pense que quand on a mis autant de temps en tant que partenaire de terrain, est-ce que ce qu'on a développé a de la valeur pour autrui ? Est-ce que ça va être utilisé ? Est-ce que ça fait sens ? Est-ce que ça valait la peine ? Est-ce partageable ? Parce que alors ça, c'est vraiment la question, hein. Qu'est-ce qu'on s'aime bien entre nous quand ça fonctionne bien ? Quand ça fonctionne bien. Mais ça fonctionne bien. Mais après, est-ce qu'on peut le partager hors de notre groupe, hors de notre circonscription, au-delà de nos préoccupations. Évidemment, on se pose la question aussi de la collaboration entre nous. Quelle est la qualité de notre collaboration? Puisqu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est le principe même. Mais ça, je suis désolée de vous dire, il ne faut pas oublier, je me le dis à moi-même. Quand on dit la qualité de la collaboration, c'est parce qu'on a le principe épistémique, c'est-à-dire qu'on construira de la connaissance pratique, scientifique, par le principe même de collaborer. Donc le principe de collaborer, c'est le principe épistémique qui fonde la raison d'être de ce type d'approche scientifique que l'on a. Donc ça veut dire qu'on se doit de se préoccuper de la collaboration. Et d'ailleurs, tous les travaux des Québécois, je pense à Gagné, Morissette, Bednarz, etc., tout de suite, ils ont dit c'est quoi collaborer. Et puis alors, la validité de ce que l'on produit. Elle était longue, ces prolégomènes étaient très longues, je m'en excuse. Et je vais juste terminer en disant, pour pouvoir qu'on se comprenne après, parce que ça aussi, vous me l'avez bien pointé hier, c'est faisons encore la distinction entre les évaluations par les personnes externes à la recherche collaborative, qu'on demande de façon légitime, dès lors qu'il y a des fonds investis. Alors, il va falloir valider un petit peu les raisons, faire valoir, rendre compte, pour assurer tout ça, tout ce qu'on a fabriqué avec les fonds investis. Et puis là, on était intéressé hier par le fait de se dire, et si on pensait les évaluations réalisées par nous-mêmes, en tant que partenaires actifs de la recherche collaborative, dans des démarches d'auto-évaluation, évaluation collaborative, valuation, tout ce que vous avez déjà travaillé. Donc là, j'avais besoin de bien établir encore cette distinction. Alors, on va partir de l'intérieur, parce que finalement, on a beaucoup d'outils qui existent, sur les évaluations faites par l'extérieur. Et puis, ici, avec les collègues qui m'ont invité à travailler sur cette thématique, on s'est dit, on va partir de l'intérieur, avec ce qu'on aime bien rappeler, c'est que, comme l'a très magnifiquement développé Charles Hadji, notamment dans son bouquin 2012, « L'évaluation fait-elle peur ?», il commence par répondre « oui ». Et de façon très légitime, et son premier chapitre consiste à expliquer pour toutes les bonnes raisons d'avoir peur de l'évaluation, à tous les niveaux d'ailleurs, pas qu'apprentissage, système, etc. Parce qu'elle opère un contrôle, et que ce contrôle va certainement déboucher sur des sanctions, et ces sanctions, eh bien, ça peut nous plaire ou ne pas nous plaire. Et donc, on aura de nouveau des ressources ou pas. On peut publier, on ne peut pas publier. On nous donne du temps à disposition ou pas du temps à disposition. Et donc, effectivement, à travers cette évaluation, qui est essentiellement ici vue comme un contrôle, on peut se sentir menacé, contrôlé, jugé. Et puis surtout, dès lors qu'on est en train de comparer des projets de recherche, on a probablement la probabilité donc, de les classer. Et qui dit classement, dit dévaluation de certains projets. Comme quand on classe les élèves en classe, il faut courbe de Gauss, il en faut tout là, puis il en faut quand même quelques-uns, parce qu'en fait, s'il n'y en a pas quelques-uns ici qui ne sont pas pris, ça veut dire que ça ne donne pas de la valeur aux autres. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon, C'est qu'on a besoin, de montrer qu'il y en a certains qui sont exclus, parce que ça donne la valeur à ceux qu'on inclut. Et on a tout intérêt à avoir peur d'être évalué, Parce qu'un jour, c'est nous qui sommes exclus. Ben oui. Et donc, M. Hadji a pleinement raison de nous rappeler que l'évaluation fait peur. Et du coup, ça nous paraît vraiment contraire, c'est ce que je disais hier, à l'évaluation, à ce type d'évaluation apparaît vraiment contraire aux visées des recherches collaboratives, puisque nous, on veut construire ensemble. On veut être des partenaires académiques et de terrain. On veut problématiser, on veut se comprendre, on veut ne pas se comprendre. On veut avoir de la controverse, on veut se comprendre, on veut prendre des décisions, on veut agir, on veut se co-transformer. Mettez de l'évaluation là-dedans, moi je me tais. Trop risqué. Parce que si le projet il peut être classé, déclassant, donc on peut ça peut être la même chose pour les personnes, dans le collectif même de la recherche. Puis en plus, on nous dit, dans les recherches collaboratives, on y croit, puisque ça fait partie de nos principes épistémiques, que finalement, on a tous des expertises différentes. Donc moi, j'ai un petit peu de connaissance en évaluation, mais je vous garantis, je ne sais plus exactement les réalités des pratiques évaluatives aujourd'hui dans les classes, au regard de l'évolution de la société, des prescriptions qui ont changé. Et quand je travaille, par exemple, l'évaluation, évidemment, avec des recherches collaboratives, l'expertise, c'est les partenaires de terrain qui l'ont. Et donc ça, c'est le discours qu'on a, c'est tous reconnaître, hein, c'est tous nécessaire au projet. Et donc, on ne veut pas de hiérarchisation normative entre nous. On a le droit de se tromper, on a le droit de se poser des questions, on a le droit de se douter, on a le droit de se remettre en question. Il faut construire un climat de confiance, il faut reconnaître ce qui ne va pas. Il faut reconnaître les situations dites indéterminées, troublées, compliquées, pour agir, intervenir, élaborer. C'est au cœur des recherches collaboratives. Si on met trop vite le jugement là-dedans, peut-être qu'il va dire au directeur, je ne sais pas, ma hiérarchie, qu'en fait... je ne sais toujours pas utiliser tel moyen qui pourtant, après la formation que j'ai eue, il y a un sacré climat de confiance. Hein, quand on va chercher ce qui fait mal dans une recherche collaborative. Donc, c'est perçu comme une menace. Ça, j'ai déjà dit, je n'ai pas envie de redire. Et donc, du coup, on va suspendre les jugements normatifs et qui sont humains. Nous jugeons constamment. Réellement. Ou des fois, je dis, mais non, je ne t'ai pas jugé. Ah bah si, c'est comme ça que j'ai senti ce que tu as dit comme ça. Hein. Ah non, mais je te jure, hein, mais je me suis sentie, mais... Perception. D'accord ? Très complexe. Puis, ce n'est pas uniquement le chercheur qui juge. Parce qu'en fait, le praticien juge le chercheur aussi, un peu sur sa tour d'ivoire. Puis inversement, hein, on peut se dire, oui, mais bon, voilà, hein, c'est des connaissances de terrain. Le praticien va nous répondre, mais c'est la vraie vie. Donc, c'est ça pour dire que c'est normal que ces jugements, ça serait de l'évaluation, du subjectif ici, du formel, du ressenti. Est-ce qu'il faut mettre évaluation là-dedans ? Moi, il y a déjà des collègues que je vois, hein, Isabelle. Et est-ce que vraiment... je ne sais pas. Parce qu'il faut préserver la confiance, la bienveillance, la réciprocité, l'ouverture aux points de vue différents. Donc on ne va pas parler d'évaluation, on fait comme s'il n'y a pas de l'évaluation. Justement pour préserver le contrat social, le contrat épistémique de la collaboration, on va parler d'accompagnement, de conscience critique, de réflexivité, de voilà. Mais on met plein d'autres mots. Ou alors on dit ça, c'est pas évalué. C'est aussi le truc, hein, de se dire, non, mais ça, c'est pas évalué. Ok. Ben, si vous arrivez vraiment à suspendre totalement les jugements, eh bien, vous m'expliquerez comment on fait. Mais le risque de ne pas empoigner la question avec les... Voilà, l'évaluation fait peur, c'est de quelle évaluation dont on parle, c'est pour faire quoi. Le risque, c'est que du coup, on va laisser aux autres le soin d'évaluer notre recherche. Par la hiérarchie, les revues scientifiques, la structure institutionnelle, le mandataire, etc. Et puis parfois on n'est pas content, hein. C'est ce que je disais hier, on n'est pas très 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 content de ce que les autres disent. Ils n'ont juste rien compris de ce qu'on a fait. Bah oui, ils n'étaient pas à l'intérieur, ils n'étaient pas dedans. Donc si nous-mêmes on n'est pas en mesure de donner à voir la qualité du process pour justifier la teneur de nos produits, il y a fort à parier que selon les outils utilisés, ça nous amène à une certaine frustration et en se disant, décidément, cette évaluation, qu'est-ce que je l'aime pas, hein? Qu'est-ce qu'elle est menaçante? Et c'est le cercle vicieux qui se réenclenche. Alors, grâce à ma collègue Isabelle Nizet, qui nous a fait une magnifique conférence vendredi dernier à Genève. Eh oui, c'était magnifique. Eh bien, tu es, je me permets de dévoiler, je ne sais pas si tu avais le souhait d'en parler plus aujourd'hui, elle nous a proposé de travailler notre rapport à l'évaluation à travers la notion de rapport qu'elle a été recherchée, notamment de Charlot, pour se dire, mais finalement, est-ce que si on pense la question de l'évaluation, vraiment pas uniquement au niveau de la technique, la méthode, des outils, enfin, ce côté un peu technocratique de l'évaluation, mais vraiment dans son rapport subjectif, d'expérience, d'aspiration, d'intention, de volonté, de désir, de rejet, peut-être que ça nous amènera à mieux pouvoir se saisir de cette question évaluative, tout en sachant que c'est très compliqué et long de changer son rapport à. Et cela nous amènerait à cette question. Si l'évaluation des recherches et dont les recherches collaboratives devenait notre affaire, avant même que ce soit l'affaire des autres. C'est un engagement, hein. Mais alors, de quelle évaluation parle-t-on et comment? Parce que rajouter une couche, déjà, dans tout ce qu'on fait, puis qu'on est en train de dire, il va falloir encore y remettre pendant qu'on est en train de faire la fonction critique, ça peut faire peur. Alors, à quel moment, par qui, etc. Ouf, ça va? Alors, il faut que je... c'est ici que je vais un petit peu élargir la question. Se disant, si c'est notre affaire, il y a certainement des choses qui ne sont pas de notre affaire. C'est-à-dire qu'il y a des partenaires qui sont aussi là pour réfléchir avec nous sur les enjeux de l'évaluation. Et que donc, il y a des évaluations. Hein, de quelle évaluation parlons-nous hein, quand on est de l'intérieur des recherches collaboratives ou des Léa? Et en sachant, en ayant une vision quand même des différentes formes d'évaluation, et là, je vais quand même un peu les rappeler, pour ne pas faire peur à nos commanditaires en disant « Ouh là là là, c'est ça l'évaluation, mais c'est pas de ça dont nous on a besoin ». Alors, je trouve important de savoir qu'évidemment, ça fait système avec un ensemble de conceptions évaluatives que vous connaissez bien. La plupart ont été développées par des chercheurs et chercheuses en France. Et notamment maintenant qu'on caractérise volontiers, suite aux travaux de Vial, entre évaluation-mesure, évaluation-gestion, évaluation-valeur. Et puis là, en l'occurrence, les travaux sur la recherche-intervention de Jean-François Marcel et Véronique Bedin, eh bien, ont réinterrogé ces modèles pour... évaluer la recherche à des fins participatives, etc. Hein, je trouvais vraiment très intéressant, donc je cite leur article de 2018 ici. Donc quand on est dans une évaluation mesure, le but c'est de diagnostiquer, compter, mesurer des écarts, mesurer des effets, mesurer des impacts, mesurer des évolutions, comparer, classer. C'est ce qu'on fait. Hein. C'est sur des méthodes scientifiquement justifiées, on part sur une logique de la preuve, on a un impératif de validité, on a des questionnaires, des grilles, des critères, des indicateurs. Puis là, on peut se poser, est-ce que c'est de ça dont on a besoin de l'intérieur? Hein? Quelques dérives bien connues dans la littérature, comme une forme de conformité à une culture un peu hiérarchique du haut vers le bas. Donc les mots-clés ici, c'est effet, impact, efficacité, rendre compte. Alors, Yann Mercier-Brunet, en lien avec les travaux d'Angero, associe cette évaluation avec les postures que l'on prendra de contrôle dans une vision normative. Mais normative ne veut pas dire négatif. Hein. C'est dans une vision de prescription rattachée à une norme institutionnellement validée, reconnue. Nous les connaissons, hein, ces évaluations-là. On n'est pas très bon en hein, recherche collaborative hein, sur ces évaluations-là, souvent. Hein. Ou alors, il faut construire des indicateurs, des outils, du dialogue, des comités. Okay. Évaluation-gestion. Donc là, c'est intéressant parce qu'ils ont ouvert le modèle par rapport aux travaux de Vial. Alors, cette évaluation, elle va nous servir à planifier, ajuster, réorienter, réguler, se coordonner, copiloter, décider, accompagner. Ah là, on en a besoin. Ah, clairement. Hein. Parce que quand on est sur 3 ans, ou 5 ans, ou 6 ans sur un projet, ça se réoriente. Mais au nom de quoi? On voit qu'il y a un souci. Au nom de quoi? Quels sont mes indicateurs? Quelles sont les données qui me permettent de dire « Ah, bah peut-être là, il va falloir revoir notre projet. » Et donc, dans une approche collaborative, eh bien, on va essayer de mettre en place des méthodologies plus participatives, donc de plus en plus participatives pour accompagner, conseiller cette gestion. Donc, certes, on a des responsabilités dans la gestion du projet. Souvent, c'est le chercheur, la chercheuse qui va le prendre, ou bien alors, justement, une conseillère académique, voilà, qui a ce rôle d'interface, hein, avec l'équipe de terrain. Et donc, là, on a besoin de produire des objectifs, des critères, des indicateurs, mais avec les gens du terrain, avec les différents partenaires. Et on va parler plutôt de référentialisation. On s'autorise à ouvrir ce qui fait sens pour donner de la valeur à notre projet. Là, je fais référence aux travaux de Figari, vous l'aurez retrouvé. Dérive. On tombe dans une complexification organisationnelle. Moi, je n'ai toujours pas tout compris hein, chez vous. Mais bon, j'ai le droit, je suis genevoise, je suis suisse. J'ai même expliqué hier soir que je n'étais même pas genevoise, j'étais vaudoise. Ce qui ne veut pas dire tout à fait la même chose. Parce que même entre cantons, on a nos propres modes organisationnels. Donc, en France, je n'ai pas tout compris encore. Mais si on veut aller sur la gestion, la planification, la coordination, le copilotage, etc., eh bien, le risque, c'est aussi d'aller vers une sorte de rationalité utopique. On rationalise, on devient des bons techniciens. Mais on en a besoin. On en a besoin. Mais peut-être pas que. Les mots-clés, anticiper, anticiper. Vous devez faire un projet pour engager votre Léa, qui va être évalué. Après, vous planifiez. Quand c'est qu'on se voit, quel moment, quel partenaire, quel type de produit on va aller, est-ce qu'on va aller à la journée de rencontre internationale des Léa pour faire une communication ou pas, qui, etc. On régule, on décide, on est fatigué. On va pas commencer avant le mois d'octobre. Non mais t'oublies, première réunion à la fin septembre. Utopique ces chercheurs. Franchement. Non. Le mot efficacité vient aussi là-dessus. Hein. C'est une efficacité rationnelle pour mener à bien le projet. Les postures de conseil, de guidage, de suggestion, de délibération, de transaction, dans une approche collaborative. C'est bien, c'est important de le dire là. Hein. C'est dans une approche collaborative. On est, pour pouvoir y arriver, dans des postures de conseil, de guidage, de suggestion, de délibération, de transaction. Selon, évidemment... les travaux de Yann et d'Angero derrière. Et puis vous avez ce dernier modèle. On n'est pas trop d'accord sur la façon de le nommer. Ici, j'ai décidé que je le mettais la façon dont les collègues le nomment avec évaluation valeur. Construction de la valeur, très bien. Pour moi, je n'ai pas un souci. Le seul, c'est que pour moi, la valeur, elle est transversale, elle est dans la flèche. Parce que quand on utilise les autres modèles, c'est aussi pour donner et construire de la valeur. Voilà. Mais bon, on trouvera un terme, on s'est déjà dit hein, qu'on voulait réfléchir là-dessus. Alors, qu'est-ce que la littérature nous dit sur ce modèle? On va mettre au jour nos valeurs. On va les expliciter. Est-ce qu'on ose tout expliciter dans un collectif de recherche? On en parlait hier soir, on se disait... Si dès le départ, j'avais dit vers quoi j'aurais aimé que j'aille par rapport à la problématique terrain vers lesquelles ils sont venus me chercher, puis j'étais enchantée, donc j'ai dit oui. Et je sens que j'ai peur, en fait, le collectif. Parce que mes préoccupations scientifiques, eh bien, il va falloir les ajuster, les retravailler. Mais n'empêche que si je devais expliciter pourquoi est-ce que je m'engage dans ce projet, avant même, par exemple, d'entrer dans la co-construction du projet, il y a fort à parier que les collègues disent « Dis donc, Lucie. » Parce que nous, on ne veut pas ça. C'est pas ça qui nous intéresse. À quel moment on explicite? À quel moment on va valider collectivement nos choix? Au regard de quel principe démocratique? Moi, en tant que chercheuse, dans quelle mesure je fais un pas de côté? Au nom d'un principe démocratique de co-construction de sens. Et là, vous voyez... Ah oui, j'ai eu une petite erreur là. On est dans une orientation dite herméneutique, donc construit sur des signes probants qui donnent de la valeur à ce que l'on fait. Alors, en termes de méthodologie, on sera sur des questions de critères et indicateurs, toujours, mais alignés à des valeurs d'émancipation, de démocratisation. J'en ai rajouté d'autres hein, grâce à nos intervenantes de ce matin. Grâce à des valeurs d'opiniâtreté, de persévérance. Vous voyez ? Et là, on peut donner tout à coup des critères de ce type-là, mais comment les opérationnaliser, cette mesure ? Comment, cette affaire-là ? Il y a des dérives. On a des tensions de nos valeurs individuelles, institutionnelles. On doit faire des arbitrages, on n'a pas le temps. Ça prend du temps, c'est terrible. Mot-clé de cette approche-là, co-construire du sens grâce à l'évaluation. Ça, moi, j'adore. Est-ce que l'évaluation elle-même peut nous amener à construire du sens? La plupart disent non. Hein. Non, ça sanctionne. On dit quoi? On dit même contre l'émancipation, donc c'est aliène. Ah oui, oui, c'est ça, c'est ce qu'on dit. L'évaluation est aliénante. Dans cette conception-là, on va dire non, l'évaluation avec d'autres visées, heuristiques, praxéologiques, faut pas les oublier, faut pas mettre tout sur l'évaluation. Eh bien, peut-être qu'on va pouvoir construire du sens, mais au nom de quelle valeur, de quel principe éthique, de quelle finalité? Et là, ça sera différent dans chaque projet, j'imagine. Nos postures herméneutiques, comprendre, apostropher, vous retrouvez les termes, co-construire. Est-ce que ça, c'est de l'évaluation? J'aurais tendance à dire oui. Alors, voilà, quand tout à coup on se retrouve confronté avec les partenaires institutionnels, ceux qui ont la lourde responsabilité de piloter nos systèmes éducatifs, les systèmes de formation, eh bien, on voit bien que eux-mêmes, de par la demande sociale qui leur est faite, ils iront peut-être vers de l'évaluation mesure, vers de l'évaluation gestion. Puis nous, on est à l'intérieur. Et pour l'instant, eh bien, on aura peut-être besoin d'avoir une évaluation valeur. Alors, est-ce que c'est complémentaire ou pas? Bah, ça va dépendre des indicateurs, hein, parce que selon quels indicateurs qui nous sont donnés dans l'évaluation mesure, on va se dire, ben, non. Est-ce qu'on peut créer, est-ce qu'on peut, il y a des paradoxes. Est-ce qu'on peut gérer les paradoxes? Est-ce qu'on arrive à faire face aux paradoxes? En classe, juste pour vous donner une idée, pour se refaire un peu une représentation derrière. Quand on dit que l'évaluation est paradoxale, là je pense notamment aux travaux de Paquet, Léopold Paquet, il n'y a rien de plus paradoxal de demander à des élèves de s'auto-évaluer dans une formation certifiante. Il n'y a rien de plus paradoxal. Vas-y, dis ce que tu penses, dis à quel point tu as des difficultés, explique ce que tu n'as pas compris, etc. Puis juste derrière, de toute façon c'est moi qui mets la note. Hein. In fine, c'est moi qui vais décider ce que tu as compris, pas compris, hein. Parce que l'évaluation contrôlante, c'est moi qui l'ai. Les élèves sont très malins. Hein. Ils arrêtent d'expliquer véritablement. Ils savent exactement ce qu'il faut dire, mais pas trop. Est-ce que nous, on va être dans ces paradoxes-là? Alors, pour continuer alors, sur la question, c'est peut-être se poser ensemble la question de savoir alors qu'est-ce qu'on veut évaluer dans une recherche collaborative. Est-ce que tout s'évalue? Peut-être pas. Hein. Qu'est-ce qu'on évalue? Est-ce qu'on évalue que les produits? Ça, on sait faire. Enfin, on croit savoir faire. En tout cas, avec nos articles scientifiques, c'est là qu'on se rend compte qu'on n'est encore pas très bon dans la reconnaissance de ce qu'on fabrique à travers une recherche collaborative à des fins scientifiques. On peut fabriquer des ressources, des moyens, enfin du livrable. voilà. Mais est-ce qu'on va aller jusqu'à évaluer le process de la recherche? Parce que la question, c'est que pour avoir la qualité du produit, il faut assurer la qualité de la fabrication du produit. Ça va, là, je suis dans du positivisme quand je parle comme ça. Ça va? Quand on est dans les autres approches de recherche, on demande toujours. Alors, vous nous expliquez, au fait, alors, les indicateurs statistiques qui assurent qu'effectivement, vous avez fait l'excellente analyse multiniveau qui montre qu'effectivement, ce que vous allez dire, etc. On doit donner des preuves de la qualité de la démarche. C'est la même chose en qualitatif. On doit donner des preuves de la qualité de la démarche qualitative qui permet d'affirmer ce qu'on donne. Avoir comme résultat. Donc, quand on est dans un processus de recherche collaborative, est-ce que, par exemple, recueillir des données dans un collectif qui s'interroge, puis qu'on transcrit les données, et qu'on sera dans du dialogue, de la confrontation, et qu'on fait intervenir des catégories scientifiques pour interroger ce qui nous préoccupe collectivement, tout en métissant avec quelques catégories du terrain? Est-ce que c'est reconnu comme une méthodologie scientifique admise? Ou est-ce que c'est pas assez sérieux? Ou est-ce qu'il va falloir rajouter, alors là on est bon, quelques entretiens semi-dirigés, un peu d'autoconfrontation, de la confrontation croisée, un peu de vidéo, enfin toutes les méthodologies qualitatives dont on a besoin pour la validité scientifique. Mais c'est quoi la frontière qu'on s'autorise dans la recherche? Parce que nous, on aimerait bien aussi que les praticiens, ils s'y retrouvent dans l'affaire, hein. Parce qu'autrement, ils se sont dit, moi, je suis un producteur de données pour toi, hein, c'était pour ça, hein. On va retravailler pour mes élèves, là, hein, parce que toi, moi, demain, hein, mes élèves, hein, je les ai nouveaux. Vous êtes bien fait plaisir, bon, ben, c'est bien. Intellectuellement, on aime bien, hein, même le praticien, mais après. Donc c'est quoi cette frontière à trouver, justement, et là vous êtes sur la validité méthodologique. Il va falloir qu'on se la pose cette question parce que ça relève après de la validité de ce que nous produisons dans la recherche collaborative, au même type que n'importe quelle démarche. Et là on a des choses certainement qui existent, on s'appuie sur des méthodologies avérées, mais certainement qu'on a encore des choses à inventer parce qu'on combine ces doubles visées, hein, qui sont, que vous connaissez bien. Voilà. Alors, j'ai besoin de rappeler ça, c'est que j'imagine qu'on a une façon aussi, quand on travaille ensemble, eh bien, d'oser mettre à plat nos conceptions de l'évaluation. Je ne sais pas si vous avez vécu ça. Moi, ça m'est arrivé. Je me suis dit, ouais, j'ai le défaut d'être une qualitativiste, interprétativiste, situationniste, etc. Donc, les gens qui viennent me chercher avec mon équipe, ils vont se dire, bon, avec Lucie, elle ne va pas nous amener avec la statistique, des outils expérimentaux, quanti, etc. Donc, naïvement, je me dis, il ne va pas falloir clarifier nos conceptions, en fait, derrière la recherche et donc aussi l'évaluation. Et puis, ces collègues, que parfois j'ai même eu dans mes cours en développement professionnel, tout à coup, je me rends compte qu'ils disent « Mais ça, ce n'est pas de la recherche, ce n'est pas de l'évaluation. On ne peut pas faire ça. » Parce que la conception que l'on a encore de l'évaluation, c'est que pour être objective, l'évaluation se doit d'être externe. Donc l'évaluation, ça demande de se mettre en dehors de la situation. Et l'évaluateur n'y joue aucun rôle. Et on lui met une position externe. Alors il peut organiser le dispositif, il peut traiter les données, il peut traduire des résultats avec des comparaisons, des classements, l'observation, l'évolution, etc. Mais il va rester externe. À quel moment on a besoin d'un évaluateur externe? Peut-être qu'on a besoin. Mais quand on est en train, dedans, de l'intérieur, question ouverte. Attention, j'insiste, je ne suis pas en train de critiquer, de dire l'un est mieux que l'autre. Ce n'est pas ça, hein. C'est quelle est la posture et quelle est la conception que j'ai pour penser l'évaluation. Et je la pense au regard des finalités. Qu'est-ce que je veux faire avec cette évaluation? De la temporalité, à quel moment? Et des retombées. Hein, on a toujours cette vision-là. Deuxième conception. Je l'ai entendu hier. On est venu me chercher hier. Hein. Ça m'a perturbée. Non, mais non, pas vrai. Mais ça m'a un petit peu déséquilibrée. Petite perturbation intéressante. Est-ce que, quand on parle d'évaluation, c'est une évaluation interne et subjective? C'est-à-dire que là, cette fois-ci, l'évaluation est dans la situation. Il construit son point de vue avec et autour de l'acteur individuel, institutionnel, avec le directeur, la représentation du ministère, etc. Pour une prise en compte des objectifs de pour qui on fait la recherche. Alors on va s'attacher à la pertinence des informations à recueillir en fonction des réalités diverses, des intérêts qui sont forcément divergents. On a des intérêts divergents. Et l'évaluation est faite d'inférences, d'interprétations, elle se fait descriptive, elle s'intéresse au processus, à la prise de décision. L'auto-évaluation dans le projet, on parlait hier, hein, est-ce que j'en fais partie, et voilà. Puis enfin, eh bien, on a cette idée-là, c'est que l'évaluation, elle peut être négociée et interactive. Et ça, je reprends les grands travaux de Jean Cardinet, hein, qui est un homme qui était visionnaire, quand on voit ce qu'il écrit dans les années 80, impressionnant. Et est-ce qu'on va accepter que cette évaluation est forcément négociée et interactive? Donc, on ne va pas se mettre d'accord sur les référents. Mince, on ne va pas se mettre d'accord sur les référentiels. On va devoir les confronter. Et on prendra des décisions de nature politique, mais politique au sens de quelles sont les finalités au mieux de ce que je souhaite faire. Qui fait qu'on va des fois admettre qu'on ne va pas être d'accord. Mais c'est au nom de quoi je vais pouvoir engager une évaluation dans des référentiels différents. Voilà. Alors, j'ai encore 5 minutes pour... En fait, c'est des outils, j'espère, ici. C'est des entrées différentes. Hein. Puis c'est-à-dire, ok, est-ce qu'on est dans la négociation? Donc, dans la vision politique de la chose, est-ce qu'on est dans la dimension subjective? Je suis dans la situation et je dois objectiver. Est-ce que j'ai besoin d'avoir une position externe? À quel moment il va falloir avoir une position externe, hein? Et la question pour moi qui est problématique, c'est est-ce que quand on va évaluer un Léa ou une recherche collaborative, est-ce qu'on peut la détacher de leur contexte? Voilà. J'ai encore 5 minutes, je crois. Donc, je vais attaquer encore cette question compliquée. Peut-être que c'est là le problème. C'est très difficile hein, de faire échapper, de faire comprendre ce qu'on fait, ce qu'on produit, hors du contexte qui les a produits. Puis quand on va dire une évaluation, une recherche située, ça veut dire que la valeur et le sens de ce que l'on a produit intègre les éléments de notre contexte. Les cultures scientifiques, les préoccupations, je vois à Lyon qui ne sont pas forcément les mêmes, par exemple à Genève, etc. Et que ce qu'on va produire portera inévitablement aussi la marque du contexte qui a participé à les produire. Et c'est pour ça qu'on dit, voilà, alors attention, ça, c'est peut-être plus la recherche. C'est de la recherche intervention, c'est de la recherche action, c'est de la recherche au service d'un contexte. Et nous sommes quelques-uns à penser que non. Que le fait de penser la fabrication du produit, hein, de la recherche, à travers le process et le contexte, permet aussi de donner à voir des problématiques en sciences de l'éducation qui peuvent être ensuite transposées, généralisées, éclairées, communiquées. Donc vous avez dit hier, en fait, la recherche fondamentale en contexte, c'était quoi cette expression que vous avez utilisée, hein? Faites de la recherche fondamentale en contexte avec le contexte. Alors c'est ça. Avec le terrain. Ouais. Avec le terrain. Ouais, voilà. Je crois qu'on est un peu là-dedans. Donc on va assumer qu'on fait avec, qu'on prend les problèmes du terrain pour produire sur ces visées dont on a parlé. Et là, vous pouvez vous réfléchir à se dire, est-ce que c'est une évaluation pour la recherche en train de se faire ? Avant, pour planifier, concevoir, pour interagir, pour piloter. Ou est-ce que certains avaient pensé que c'était ce que je présentais, mais en fait, pas tout à fait. C'est l'idée, est-ce qu'on se donne des référents une fois que la recherche est faite pour évaluer celle-ci, mais elle est faite, donc elle est rétroactive. Et là, c'est très intéressant parce qu'en faisant ça, ça veut dire qu'on va pouvoir rendre compte de la qualité de ce qu'on fait, donc la qualité du produit. Ça permet aussi de mieux penser notre prochaine recherche collaborative. Puis là, de nouveau, on est en méta-enquête. Visée praxéologique, hop, pour ma prochaine recherche collaborative. Puis visée scientifique, pour la production scientifique. Et puis alors là, ça m'amuse toujours, on est dans évaluation des produits, alors là, on a des normes externes. Mais quand on dit les retombées sociales dans nos communautés d'appartenance, alors là, je vous promets qu'on revient sur autre chose qu'une évaluation externe, hein. Et on revient donc du négocié, de la mesure, de la subjectivité, etc. Voilà. Alors voilà, c'est une petite aventure qu'on peut avoir en se disant, au regard, maintenant j'ai croisé tout ce que je vous ai dit avant. Donc est-ce que c'est en avant, pendant, après, ça c'est pour éclairer le process, pour mieux comprendre la validité de ce que l'on produit. Maintenant les modèles, hein. Les conceptions que l'on peut avoir, qui vont déterminer des postures, des démarches, des outils. Et au nom de quoi ? Au nom de quoi ? C'est-à-dire, quels sont les référents qu'on parle de repères, de critères, d'indicateurs, etc. Est-ce que c'est des référents qui sont préexistants ? On nous les donne, on les construit ensemble. On va les redonner au prochain Léa. On peut les co-construire, où ils sont déjà là, donnés, avant. Émergents, parce qu'il y a toujours une forme de sérendipité, hein, dont on parlait tout à l'heure, d'émergence possible. Donc voilà, donc j'ai envie de dire bonne chance avec vous Léa, et puis peut-être d'initier quelques éléments de réflexion évaluatifs dans la gestion de vos Léa. Et puis par rapport aux outils qui ont été présentés dans l'article, je me dis que ça a déjà été expliqué, plusieurs d'entre vous étaient là hier, je pensais les reprendre, mais vous voyez, je ne les ai pas repris. J'ai choisi de ne pas les reprendre, ça m'embêtait de redire des choses d'hier. Et par contre, je me tiens à disposition dans la journée si vous souhaitez me poser quelques questions sur les outils qu'on avait mis dans l'article qu'on vous a proposé en lien avec mon intervention. Merci à vous, hein, pour votre écoute.
Merci beaucoup pour cette conférence. On a encore quelques minutes si vous souhaitez réagir, poser des questions. Voilà, déjà une question, deux questions.
Merci Lucie. C'est assez redoutable d'essayer de poser une question derrière cette immensité, cette complexité. Je me demande si je ne suis pas dans... Alors, je ne sais pas, mais avec Valérie Lucie Borreur, on a travaillé assez longtemps sur une forme de description de l'agir enseignant à partir d'une approche expérientielle, phénoménologique. Et c'était pour nous important de co-décrire, tu vois, de s'accorder sur, dans une phase d'objectivation de la subjectivité, en essayant quand même de coupler systématiquement ce point de vue en première personne et en troisième personne, faisant que finalement, il y a la personne dans la situation, puis il y a une personne qui est donc observée, observatrice, et que là, il y a une forme de complémentarité des points de vue pour aboutir à une forme de consensus ou de convergence dans la compréhension même de ce qui se joue. Donc ça me donnerait à dire que, est-ce qu'il faut systématiquement séparer l'externe de l'interne ou imaginer des métissages avec des données peut-être en première personne? Je crois qu'il y a des collègues dans la salle, quelqu'un en particulier, qui travaille sur la subjectivité de l'expérience animale et qui a réussi à objectiver la subjectivité, etc. Ouais. Donc, métisser, avoir des multicritères internes, externes, et peut-être créer ce maillage complexe entre du qualitatif et du quantitatif. Ouais. Donc, j'aurais plutôt une tendance à intégrer. Bien sûr, après, il faut mettre en avant, à l'épreuve du réel, cette méthodologie qui passera ou non par rapport à des experts. Voilà, j'en suis un peu là de ma réflexion sur la mise en place d'un système complexe en fait et intégrateur de points de vue différents.
Ouais, merci beaucoup. J'interviens avec Valérie justement dans le cas formation et formateur de terrain où justement elle est sur l'accompagnement, donc je vois vraiment la fonction vraiment de description. On dit on suspend le jugement. Hein. On doit décrire, on doit objectiver. Et c'est vraiment extrêmement intéressant de croiser les points de vue parce que, en même temps, quand on est dans d'autres approches conceptuelles comme celle de Dewey, donc vous avez compris, vous avez reconnu. Hein. Et là, on sera sur, en fait, l'appréciation immédiate. Elle est là, elle est immédiate, elle est émotionnelle. Et même dans la description, elle est là. Et donc, du coup, le fait de pouvoir arriver à distinguer cette sorte d'appréciation qui est là, on est des humains, hein, et au contraire, ça participe de l'enquête, en plus. Hein, je pars sous contrôle de plusieurs personnes qui en savent beaucoup plus que moi à ce sujet dans cette salle. Mais savoir qu'on en est là, et donc après, on est dans la description à travers ce de facto valuing, donc cette appréciation immédiate, pour suspendre le jugement. Ne pas aller trop vite vers le jugement, déjà, je pense que déjà là, si on arrive déjà à bien établir cette distinction. Puis après, entre l'interne et l'externe, très sincèrement, je sais pas, parce que est-ce qu'on est dans une... C'est vraiment une vraie question pour moi. Hein. C'est est-ce qu'on est dans une forme d'intégration, d'une sorte de méthodologie qui permet, dans une forme intégrative, de combiner des indicateurs externe interne dans la logique de la du Léa hein, qui doit fonctionner, ou est-ce qu'on doit plutôt faire de la triangulation, tu vois, c'est vraiment, et ça je sais pas, ou les deux hein, peut-être. Je me dis triangulation, c'est bon hein. Ça veut dire qu'on va prendre une méthodologie pour elle-même dans ce qu'elle produit, une autre méthodologie d'évaluation hein. Une méthodologie d'évaluation pour ce qu'elle produit, par exemple à l'interne hein, dans la dimension subjective hein, par exemple. Et puis de se dire, à un moment donné, on ne va pas forcément dire que ça doit se rejoindre, parce que l'intégration, ça demande à se rejoindre, et puis il faut avoir des référents communs pour pouvoir un peu, tu vois, pour intégrer. Mais moi, j'aimerais hein, aller dans l'intégration. Mais au moins, se dire, bah voilà, par rapport à cette méthodologie, quand on est, par exemple, dans quelque chose de très objectivant, à travers des outils quantitatifs très intéressants, ça nous dit quoi de notre Léa? Puis nous, quand on a travaillé dans cette approche très négociée, hein, donc d'évaluation de type valeur. Alors là, elle est tout le temps là, enfin, c'est super compliqué, alors qu'il va falloir, rendre compte de son expérience à travers des narrations, par exemple. Voilà. Quand on croise les deux, ça donne quoi? Et l'écart de ce que ça peut produire, qu'est-ce que j'en fais? Moi, j'en suis là. Voilà, mais... Peut-être vous avez trouvé des façons d'intégrer. Personnellement, je pense que c'est la... Enfin, non, mais ça, c'est parce que c'est mon dada. C'est pour ça. Donc, je dirais que pour ma part, je rentre vraiment par la référentialisation. C'est pour ceux qui me connaissent. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait référent? Le référent, c'est au nom de quoi je me permets de dire. Au nom de quoi je me permets de décider. Au nom de quoi je me permets d'arrêter. Au nom de quoi je me permets de changer mon référent. Une autre est... Bon, j'ai travaillé longtemps avec Figari, donc c'est normal. Il y avait une autre question. Oui, volontiers.
Oui, merci pour l'intervention. Ça fait un peu, j'espère que ça ne fait pas trop les chercheurs. Parle
ouais,
de chercheurs,
ça,
mais,
ouais.
Mais
même
je vais poser,
les praticiens.
Je vais poser une question de Candide, justement par rapport à la professeure de sciences de l'éducation que vous êtes.
Oui, ouais.
Moi, je viens de la sociologie et de l'anthropologie, et j'ai entendu dans les épithètes que vous avez utilisées par rapport à recherche participative, collaborative, intervention, action,
oui.
Et l'article de Marcel et Bedin parle de la recherche intervention. En précisant, alors ça fait le gars qui connaît ça depuis longtemps, mais vous me l'avez fait découvrir hier, donc merci beaucoup.
Ah, bah tant mieux.
J'ai eu le temps de le parcourir vite fait.
Ouais.
Et à un moment donné, il dit que c'est pas la même chose que la manière dont la recherche collaborative est définie épistémologiquement par des gagnés et tout ça. Donc vous mettez le terme recherche collaborative et participative.
Absolument.
Mais c'est pas un problème pour moi. Hein.
Ouais.
Justement,
aussi.
C'est le sens de ma question, c'est qu'en fait, aussi par rapport à ce que Catherine Loisy a présenté hier avec Sophie Roubin dans le fameux schéma que vous avez repris, donc l'expression recherche fondamentale avec le terrain.
Avec le terrain,
Il y a aussi dans le cadre du réseau de travail pluridisciplinaire du CNRS Éducation un axe qui s'appelle penser le lien avec le terrain, auquel je participe. Et où je vois que les gens qui interviennent là-dedans se préoccupent assez peu de savoir comment on doit qualifier les recherches. Est-ce qu'elles sont action, intervention, collaborative, participative, développement, je ne sais pas quoi d'autre. Et que j'ai l'impression que de plus en plus, ces catégories-là sont des enjeux de lutte interne au sein de l'académie pour dire, voilà, je suis plutôt épistémologiquement par là. Et qu'ici, nous, on en a peu à faire de ces choses-là.
Absolument.
Parce que, alors, comme je viens de l'anthropologie... Bon, le rapport au terrain, c'est une vieille histoire. Et travailler avec, c'est ce que les anthropologues déjà disaient.
Depuis
belle lurette. Et je pense que vous m'avez fait réfléchir, parce que je me suis dit, est-ce que ce n'est pas les anthropologues qui ont été les premiers à interroger ce faire avec ? Et qu'en fait, on en est là aujourd'hui. Et donc, il y a une dimension anthropologique à ce qu'on fait au sens très général, c'est-à-dire l'altérité, la prise en compte des échanges et des constructions pour transformer des choses. Donc voilà, j'ai l'impression que vous
acquiescez. Merci. Je vais quand même faire un petit commentaire.
C'était pour vous entendre.
Aussi, merci à ceux qui ne sont pas dans ces sortes de guerres de chapelle scientifiques et autres. Nous, quand on va présenter nos recherches collaboratives, puis qu'on a des collègues des sciences de la société, ils nous disaient « Oh, c'est nos méthodologies !» Et vous n'allez pas faire valoir une sorte d'identité de ces recherches au nom des sciences de l'éducation. Donc, il nous rappelle très vite que, bien sûr, que ça existe. Hein, alors après, en quoi est-ce que le fait de le faire en éducation, est-ce que ça donne une couleur, une dynamique particulière ? Alors ça aussi, hein, c'est une vraie question épistémique. Moi, j'ai tendance à croire que oui. D'ailleurs, Véronique Bedin et aussi mon collègue Rinaudot nous avons invités à y réfléchir. Je ne sais pas si je vais pouvoir y répondre, mais enfin, bon, ça, c'est autre chose. Oui, alors moi, je déteste les chapelles. Donc, je peux très bien travailler avec les recherches intervention, sachant que je ne vais pas mettre recherche intervention sur le type de recherche que je mène, parce que j'ai aussi mes auteurs de référence, que la recherche collaborative, au sens où justement on l'utilise avec d'autres, c'est très rattaché aussi au développement professionnel des acteurs, tant chercheurs que praticiens, alors que la recherche intervention a plus une vision de répondre à une commande, à commanditaire, etc., en lien avec quelque chose qui est plus. Qui est aussi d'un autre ordre, parce que les terrains sont un peu différents. Recherche collaborative, on est dans la classe ou dans le contexte de formation. La recherche intervention, ça sera le terrain social. Ça sera hors de la classe. C'est aussi formation des adultes, un petit peu plus. Hein, sur... Donc pour moi, ça ne me pose pas de problème, en fait. De me dire que je fais un emprunt en sachant qu'on en a déjà, il y a des choses que je ne prends pas, je ne suis pas d'accord avec lui, évidemment. Mais c'est ça qui fait le plaisir de nos échanges, d'ailleurs. Et peut-être que pour nous, les praticiens, c'est de se dire, bon, bah, ça, il y a les jargons de nouveau, et décidément, ils s'arrêteront jamais. Donc, une recherche avec. Nous avons besoin du point de vue, avec votre point de vue, pour produire quelque chose. Tout le monde considère qu'on pense que vous avez le besoin du point de vue du chercheur ou de la personne académique pour aussi produire. Et c'est le avec, il est conjoint. Parce que des fois, c'est là avec, mais avec les acteurs de terrain, on oublie avec les chercheurs. C'est cet espace de rencontre. Et après, bon, voilà, il y a des dispositifs intéressants. Intéressants. Moi, j'aime bien travailler avec eux. Par exemple, le tiers-espace socio-scientifique. Ça y est, je recommence, c'est fini. Non, non. il est réciproque. Oui, oui, j'ai dit conjoint, mais il est réciproque. C'est beaucoup plus fort. C'est ouais, réciproque. Ouais.
Voilà. Volontaire. J'avais une autre question. Moi. Excusez-moi, ouais. Je ne suis pas chercheur.
Ah, oh, ben voilà, c'est bien.
Voilà.
Oui, c'est bien, vous avez dit. J'ai dit, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Très bien. Ouais, ouais.
Voilà.
Ouais.
Donc là.
Mais ça, ouais.
La question était de dire que quand on, et la remarque, quand oui. On était sur des évaluations qui n'étaient pas les des évaluations standards et plutôt, comme vous disiez, des évaluations valeurs,
ouais.
Il y a un effet par rapport à l'image que oui. Les équipes de terrain, les enseignants, oui. Vont avoir de ce qu'est une recherche.
Oui.
Donc se dire, ah oui, mais là, votre évaluation, elle n'est pas bonne, quelque part. Voilà, moi, au sein de l'équipe professeur, il y a eu des ouais. Certains moments où ils disaient, mais là, au niveau méthodologique, mais ce n'est pas scientifique.
Absolument.
Voilà. Donc, ouais. Voilà, ça, c'était pour faire remarquer cet axe-là, que quand on sort un petit peu des sentiers battus, ouais. Des représentations de ce qu'est une recherche scientifique, les freins peuvent venir certainement du terrain en disant, tiens, c'est bizarre, là, cette évaluation-là qu'on nous propose, mais est-ce que c'est bon? Voilà.
Oui. Merci hein, de ce témoignage-là, parce que c'est le cheval de bataille d'aujourd'hui, hein, d'entrer par la question de l'évaluation, c'est ça la question. C'est comment parvenir et à quelles conditions parvenir à faire reconnaître la qualité du travail que vous faites dans les Léas. Et ailleurs. Absolument. Oui, merci. Et puis, bah, moi, j'y crois à la triangulation à ce moment-là. Voilà, il faut trianguler avec d'autres indicateurs. Merci. Ouais, ouais, merci.
Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Donc on est pile dans les temps. Merci beaucoup, Lucie. Hein.